Bonjour à tous et à toutes. Et comme certains l'ont remarqué, effectivement, aujourd'hui, j'ai mis ma cravate. Et le sujet de ce matin, celui que je voudrais vous partager, c'est la joie de craindre Dieu. Et il semble y avoir une contradiction entre ces deux termes. On peut considérer que c'est une association de mots intéressantes. Mais quelques questions peuvent être soulevées lorsqu'on associe ces deux mots. La première question, comment peut-on aimer avoir peur? La deuxième, comment peut-on aimer avoir peur de Dieu? Ça n'a aucun sens. Et une autre, c'est être chrétien signifie avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais comment peut-on avoir une relation avec quelqu'un que l'on craint, envers qui on a de la peur? Ce sont des questions qui sont complètement dans l'air du temps et sont des questions qui reflètent l'état d'esprit parmi nous, les chrétiens. Allez, maintenant, j'aimerais vous poser une question. On appelait ceux qui suivaient Dieu de plusieurs manières. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes? Merci, Pierre. Tu as complètement spoilé mon thème. Effectivement, une des manières dont on appelait ceux qui suivaient Dieu, ce sont les craignants Dieu. Et aujourd'hui, on peut considérer que ces termes sont complètement désuets. On se dit, bien évidemment, plutôt croyant. Et pourtant, on le voit, cette notion de croyant englobe tout et n'importe quoi, que l'on suive ou non les enseignements de Jésus. Si on a mis les pieds dans une église dans la dernière année, ou si l'on pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous dépasse, alors cela suffit pour se dire croyant. Et même plus, on peut se dire croyant, mais non pratiquant. Ça n'a aucun sens. Mais remarquez que dans ces termes, se dire craignant Dieu est déjà beaucoup plus impliquant et déterminant. Cela dit, il y a de la joie à craindre Dieu, et on va en parler ce matin. En psaume 147, verset 11, nous lisons « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » C'est le verset que j'ai choisi ce matin. « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Et je pense que c'est un sujet qui mérite que l'on s'y attarde. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu? La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ce verset. Est-ce que vous avez une idée du verset auquel on va penser quand on pense à la crainte de Dieu? Ah, plutôt à la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu
est
le commencement de la sagesse.
Exactement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. En Proverbe, chapitre 9, verset 10. C'est étonnant comme ce verset nous vient à l'esprit. Et il y a également son parallèle en Proverbe, chapitre 1, au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. On voit donc que les mots sagesse et connaissance, même s'ils n'ont pas le même sens, mais ils sont apparentés. Et on pourrait décrire la sagesse comme la meilleure application pratique de la connaissance. Alors, la connaissance. Dans son ensemble, le Proverbe chapitre 1 au verset 7, nous lisons « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ». Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La connaissance représente bien plus qu'un ensemble d'informations. Elle implique la capacité de considérer ces informations sous une juste perspective et les utiliser à bon escient. En Romains, chapitre 8, au premier verset, Paul enseigne que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et à cela, il met en opposition Tite, chapitre 1, verset 1, où il évoque la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Je ne l'ai pas mis. Et c'est évidemment la deuxième vision qui est la bonne et que nous devons retenir. Deux personnes peuvent avoir la même connaissance. Pour la première, cette connaissance sera peut-être d'acquérir une meilleure position sociale, plus de biens matériels. Alors que pour l'autre, la connaissance sera un don de Dieu et cherchera un moyen pour le servir. Paul, la parole nous enseigne que la crainte de Dieu doit être le fondement sur lequel la connaissance est bâtie. C'est la crainte de Dieu qui nous donne la bonne vision des choses et nous pousse à bien utiliser la connaissance. Et cette crainte devrait imprégner toute notre vie. Alors le but premier de notre vie devrait être de glorifier Dieu. Et c'est aussi le but principal de toute connaissance. Le commencement de la sagesse. En Proverbes chapitre 9 et verset 10, nous lisons « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Nous voyons ce lien entre la sagesse et la connaissance. Proverbe 1 et Proverbe 9 utilisent les mêmes termes. Ainsi, la connaissance atteint son but en union avec la sagesse. On définit la sagesse en général comme l'aptitude de juger de façon juste une situation donnée pour agir au mieux. Mais dans la Bible, la sagesse a une connotation éthique. En Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ce sens éthique de la sagesse est très présent dans les proverbes. Et cette sagesse pratique est enseignée dans beaucoup de conseils de la vie quotidienne que va donner Salomon à son fils. Ce lien que l'on peut faire entre l'éthique et la pratique de la sagesse nous permet de comprendre pourquoi la crainte de Dieu est le commencement et le fondement de la sagesse, comme elle l'est de la connaissance. La crainte de Dieu, donc, fondement de la sagesse et de la connaissance, nous permet de mettre de l'ordre dans les priorités de notre vie. En Proverbes chapitre 15, versets 16 et 17, nous lisons « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où l'amour règne qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Alors vous aurez l'impression que j'enfonce une porte ouverte en disant que l'amour est plus important que la prospérité. Pourtant, l'histoire de l'humanité doit nous rendre humbles et nous faire considérer que ce n'est pas forcément une idée partagée. Notre richesse, nous l'avons plutôt dans le Seigneur. Et le psalmiste nous l'enseigne au chapitre 31, verset 20, où nous lisons « Ô combien est grande ta bonté !» que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » Dieu ici est décrit comme un Père riche qui constitue un fonds de réserve pour nous. Alors ce fonds de réserve n'est pas en euros ou en dollars, mais c'est un fonds inépuisable de bénédictions dont nous pourrons jouir en temps voulu par notre Seigneur. C'est ainsi que Dieu agit pour ceux qui le craignent. Il tient ses réserves en bonté pour eux. Il tient ses bontés en réserve pour nous. La nature de ses bontés et de ses bénédictions et le moment où elles seront accordées sont adaptées à chaque personne et selon sa volonté et son plan pour elle. Notons que Dieu accorde ses bontés à qui ? À qui Dieu accorde-t-il ses bontés ? À ceux qui le craignent. Merci, c'est écrit, il n'y a pas de piège. Cette promesse est-elle valable alors pour moi ? Cette promesse est-elle valable pour nous ? Dans ce verset, nous trouvons une même idée exprimée de deux manières différentes. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui trouvent un refuge en lui. Eh bien, je peux vous affirmer que ceux qui craignent Dieu et ceux qui trouvent un refuge en lui sont l'expression d'une même chose. Craindre Dieu et trouver refuge en lui, c'est la même chose. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de la crainte de Dieu, et plutôt que vous donner une définition brute, j'aimerais vous la décrire par une parabole. Et cette parabole, c'est la parabole de Joe. Cette histoire commence quand Joe a 18 ans. Il se tient debout, tout tremblant, face à son sergent instructeur qui lui hurle dessus, en utilisant tout un tas de mots dégradants. Pourtant, Joe n'a commis aucune faute grave. Il était juste sorti du rang pendant qu'il défilait sur le terrain d'entraînement. Cependant, il savait que la moindre infraction, la plus petite erreur, pouvait lui coûter jusqu'à 150 pompes et 10 tours de terrain d'entraînement. Cela ne correspondait pas du tout à ce que Joe s'était imaginé quand il s'était entretenu avec le sergent recruteur, juste après avoir passé son bac. Il avait entendu que le corps des GI recherchait quelques bons gaillards, et lui, avec son 1m90 et ses 90 kilos de muscles, il pensait être qualifié. Il avait de bonnes qualités physiques et était un bon élève. Recruté, il ne s'attendait pas à affronter tant de situations difficiles, nerveusement et émotionnellement, durant son entraînement de base. Il ne s'était pas préparé aux humiliations et aux intimidations qu'il subissait chaque jour en compagnie de ses camarades. Les seules réponses qu'il donnait à son sergent instructeur étaient « oui, monsieur, non, monsieur ». Telle était la vie au camp d'entraînement des GI, où les sergents instructeurs se chargeaient de transformer ces jeunes gens en hommes capables d'obéir sans sourciller, ce qui était absolument vital lors des combats. Dans ce contexte, le sergent instructeur était presque un dieu. Tout ce qu'il disait avait force de loi. La moindre erreur ou la moindre infraction était sanctionnée. Toutes les recrues apprenaient à craindre cet homme qui exerçait sur eux une autorité suprême. Joe comprit vite les règles et apprit à respecter l'autorité et à obéir promptement aux ordres. Et à la fin de son entraînement élémentaire, il commença même à apprécier le défi de cette vie dure et disciplinée. Un jour, le commandant général des recrues décida d'inspecter toutes les sections, ce qui déclencha une multitude d'ordres et de directives. Tout devait être parfait, méticuleusement nettoyé, les lits faits au carré, les doigts sur la couture du pantalon. Quand le général arriva, Joe, bien qu'au garde à vous, et ayant acquis la maîtrise de lui-même en situation stressante, il fut pris d'effroi quand le général l'inspecta et lorsqu'il croisa son regard glacial. Il ressentait une profonde crainte. Dans la suite de son entraînement, Joe, qui était devenu GI, donc GI Joe, fut reconnu comme un bon chauffeur, un bon conducteur. Il devint donc le chauffeur personnel du général. D'un côté, il était fier de la confiance qu'on lui témoignait, mais de l'autre côté, il se rappelait l'effroi qu'il ressentait lorsque le général l'inspecta. Et c'est donc avec crainte qu'il commença son service. Le GI Joe, c'est ainsi qu'on va l'appeler maintenant, découvrit que derrière le regard glacial du général se cachait un personnage dur, mais juste. Il écoutait les conversations du général et avec les autres officiers. Il écoutait les conversations du général avec les autres officiers et GI Joe fut impressionné par sa sagesse et ses talents militaires. C'est ainsi que sa crainte augmentait Et ce qui dominait n'était plus simplement de la peur, mais un respect mêlé à de l'admiration. Bien sûr, G.I. Joe avait toujours manifesté du respect au général. Mais à présent, à son contact, il commençait à éprouver du respect. Il l'admirait pour son caractère et sa manière de diriger. Et bientôt, il se rendit compte qu'il appréciait le général. Il était certain que le général l'appréciait lui aussi. Mais en dépit de ce sentiment grandissant, le G.I. Joe ne perdit jamais son sentiment de crainte vis-à-vis de son supérieur. Et ses relations ne se bornaient de toute façon qu'à « oui monsieur, non monsieur ». Pendant son service, une guerre éclata. Et étant chauffeur du général, G.I. Joe ne participait pas au combat, mais traversait les champs de bataille. Malheureusement, un jour, leur voiture passa sur une mine. La voiture explosa, et malgré ses blessures, le général sauva G.I. Joe qui était resté coincé dans la voiture en flammes. Et il fut conduit immédiatement à l'hôpital. Malgré ses obligations militaires, le général remit plus rapidement, visitait souvent Joe à l'hôpital. G.I. Joe était vraiment surpris de l'intérêt que son supérieur lui manifestait. Mais ce qui le frappait le plus, c'est que le général avait risqué sa vie pour le sauver. Il se posait alors cette question : pourquoi un général aussi prestigieux et estimé de tous a-t-il risqué sa vie pour un soldat lambda comme moi ? Il conclut donc que le général ne l'appréciait pas simplement, mais qu'il l'aimait vraiment. En plus de la crainte respectueuse et de l'admiration qu'il lui portait, G.I. Joe commença à ressentir de l'amour et de la gratitude envers cet homme. Il savait que malgré l'amour qu'il éprouvait pour cet homme et inversement, ils ne deviendraient jamais des copains. Vous me voyez venir peut-être ? Alors je vais t'aider, Marc. Cette parabole est une illustration de la complexité du sentiment que la Bible nomme la crainte de Dieu. Dans un premier temps, G.I. Joe ressent de la peur vis-à-vis de son sergent instructeur. Il en est de même, voire de l'effroi vis-à-vis du général. Il a ce sentiment d'infériorité face à ce personnage bien plus haut placé que lui. Peu à peu, à force de le côtoyer, il commence à éprouver une sorte de crainte, pas la peur cette fois-ci, mais du respect et de l'admiration. Et c'est après avoir été sauvé de la voiture en flammes qu'il réalise que le Seigneur ne l'apprécie pas simplement, mais qu'il l'aime. Alors, qu'est-ce que la crainte ? Lorsque j'ouvre le dictionnaire, et plus précisément le Larousse, j'y trouve cette définition : état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, peur, appréhension. Il n'est aucunement fait état d'admiration, de vénération ou de respect. Pourtant, quand j'ouvre une encyclopédie biblique, j'y trouve en plus respect et obéissance. Dans son acception ordinaire, la crainte signifie généralement la peur. Mais quand il s'agit de Dieu, cela signifie plutôt l'obéissance, le respect, la vénération. Alors, peut-on dire de ceux qui craignent Dieu qu'ils ont peur de Dieu ? Qu'ils ressentent de l'effroi en sa présence ? Bien entendu, non. John Murray, théologien du XXe siècle, enseigne à ce sujet. C'est l'essence même de l'impiété de ne pas avoir peur de Dieu, quand il y aurait des raisons de le craindre. Les Écritures préconisent même que cette crainte de Dieu nous est indispensable à nous pécheurs, car sans elle, nous demeurons sous la coupe du jugement de Dieu. Alors c'est la prochaine, je crois qu'elle est... Ah. Alors je relis. C'est l'essence même de l'impiété de ne pas avoir peur de Dieu. Quand il y aurait des raisons de le craindre. Les Écritures préconisent même que cette crainte de Dieu nous est indispensable à nous pécheurs, car sans elle, nous demeurons sous la coupe du jugement de Dieu. Après avoir péché, Adam eut très peur. Dans sa situation, il aurait été complètement fou de ne pas avoir peur. De même, à la fin du passage décrivant la perversion dans laquelle la race humaine est tombée, l'apôtre Paul déclare « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Les hommes que Paul décrit ici, ce sont des hommes qui ne craignent ni Dieu ni ses jugements. Ils se comportent comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y aurait jamais de compte à rendre à personne. Et le Pharaon en est un exemple parfait. Et on le lit en Exode chapitre 5. Il dit à Moïse, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » On le voit ici, ceux qui ne craignent pas l'Éternel, ce sont ceux qui lui ont tourné le dos, qui préfèrent vivre dans le péché. Mais alors, si on ne suit pas Dieu, alors on peut se poser cette question, Dieu est-il inoffensif ? Et on le voit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Qu'est-ce qui caractérise notre société actuelle ? Le refus de toute morale et le refus de toute soumission à Dieu. On peut même entendre, comme le dit le Pharaon, « Qui est Dieu pour que je lui obéisse ?» Pouvez-vous imaginer un seul instant des GI fraîchement recrutés s'entraînant selon leur bon plaisir ou refusant tout entraînement ? Ça paraît absurde. Pourtant, cela décrit cet état d'esprit largement présent dans notre société et même dans nos églises. Pensez-vous vraiment qu'au sein de nos assemblées, personne ne décide de vivre comme il a décidé de le faire ? Personne ne décide de lui-même ce qui est bon ou pas ? Personne ne décide de lui-même ce qui est bon à prendre dans la parole et ce qui ne l'est pas ? Vraiment ? Je discutais il y a quelques années avec un jeune dans notre assemblée qui, hélas, a très mal compris l'enseignement de la parole, ou même plus certainement, a décidé de tordre les enseignements. On parlait de ses petites amies et il m'avouait qu'il avait des relations intimes avec elles. Je lui réponds alors que s'il veut continuer à suivre les enseignements du Seigneur, il doit absolument et immédiatement mettre fin à ses agissements. Que les relations intimes ne sont réservées qu'au sein d'un couple marié. Il me répond donc que dans son cœur, à chaque fois qu'il entreprend une de ses relations, il considère sa petite amie comme sa femme. C'est une façon tragique de détourner la parole de Dieu. Et c'est une façon aussi tragique de chercher à avoir une conscience plus ou moins tranquille. La crainte de Dieu, non, je ne dirai pas qui c'est. La crainte de Dieu l'avait complètement quitté. Et il s'adonnait à ses passions. En toute logique, ce jeune ne se rassemble plus avec nous. Il s'est vite rendu compte que sa vie ne correspondait pas à ce que le Seigneur l'appelait à vivre. Alors, sans aller aussi loin, sans pécher aussi gravement, sans tordre les enseignements d'une manière aussi grossière, notre vie est-elle imprégnée de crainte pour notre Père ? Alors, je posais cette question, Dieu est-il inoffensif ? Les Écritures nous enseignent que Dieu, dans sa grâce, nous permet de trouver un refuge en lui. Cela ne signifie pas qu'il est inoffensif. Généralement, on va considérer Dieu comme notre Père, selon son amour inconditionnel, qui, de toute façon, est vrai et véritable pour nous pécheurs. On va considérer Dieu selon son pardon, mais nous évitons de parler du jugement, de sa colère à venir. Nous parlons d'espérance, ce qui est juste, mais nous ne parlons pas de sa colère qui vient contre ceux qui ne craignent pas Dieu. Faire comme si Dieu ne voyait pas le péché, qu'il l'ignorait et qu'il ne jugeait pas, est une erreur. La parole nous rappelle que Dieu est aussi un feu dévorant et que nous devons lui rendre un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. En Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. Dieu n'est donc pas inoffensif, mais il est bon. Et nous devons garder ces deux aspects en mémoire si l'on veut considérer la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu dépasse le simple fait d'être effrayé. Elle a pour but de développer trois choses en nous. La première, c'est l'adoration. La deuxième, c'est l'amour. Et enfin, la louange. Nous nous tenons avec respect devant Dieu à cause de sa splendeur et de sa pureté parfaite, mais aussi à cause de sa grâce et de sa miséricorde à notre égard. Le respect du G.I. Joe pour le général fut entier lorsqu'il réalisa avec émerveillement que ce dernier avait risqué sa vie pour lui. Au-delà de tout ça, si notre crainte n'est pas empreinte en premier lieu de respect et en ce qui concerne Dieu, de vénération, parce que nous reconnaissons combien il est digne, si nous ne l'admirons pas pour qui il est et si nous ne sommes pas émerveillés devant son amour infini manifesté en Jésus-Christ, alors notre crainte pour Dieu est incomplète. La différence entre la peur et la crainte peut être trouvée dans la parabole des talents. Les deux premiers serviteurs qui craignent leur maître le connaissent, savent qu'il moissonne où il n'a pas semé, qu'il amasse où il n'a pas vanné. Ainsi, connaissant leur maître, ils agissent en conséquence et font fructifier son bien. Celui qui a peur, le troisième serviteur, c'est celui qui a caché le talent dans la terre et lui rend sans l'avoir fait fructifier. C'est une crainte que l'on peut décrire non pas comme respectueuse, mais servile. Notre Dieu n'est pas un tyran impossible à satisfaire, qui nous juge selon nos performances. Notre Dieu est ce Dieu qui a envoyé son Fils pour nous mettre en relation avec lui. Mon Dieu est celui qui nous donne le Consolateur, son Esprit Saint, et qui inspire en nous la connaissance de sa volonté. Notre Dieu inspire donc la crainte, car il nous a aimés malgré notre état de pécheur. Et connaissant sa toute-puissance, sa sagesse, sa sainteté, nous réalisons que nous ne sommes même pas dignes de prononcer son nom. La crainte de Dieu n'est pas simplement une posture ou un sentiment. Mais réaliser qui est notre Dieu, ça ne peut produire en nous que de l'amour, que de la vénération, que de l'honneur et de l'adoration à son sujet. Alors si ça ne vous est pas encore venu à l'esprit, je vais au-delà de cette question. Mais l'amour parfait ne bannit-il pas la crainte? En 2 Jean chapitre 4. Je lève ce doute en disant que, pour comprendre ce passage, il faut le prendre dans son contexte. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Jean parle ici de l'amour parfait qui nous donne une pleine assurance de son amour pour nous. Une pleine assurance dans quoi ? Au jour du jugement. L'amour parfait nous protège de la colère de Dieu et nous donne cette assurance au jour dernier. J'aurais encore des milliers de choses à partager à ce sujet, mais pour finir, j'aimerais partager ces questionnements. Avez-vous expérimenté cette crainte de Dieu ? Êtes-vous dans cette crainte servile à l'écart de Dieu ? Est-ce que vous le voyez comme un tyran impossible à satisfaire ? Ou alors est-on dans cette crainte respectueuse de Dieu ? Jésus lui-même, en Ésaïe chapitre 11, est décrit ainsi. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Jésus lui-même, notre exemple, qui avait l'esprit, est décrit comme un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il faut noter toutefois que l'esprit repose sur lui, et chose que je n'ai pas mentionnée ce matin, mais c'est une chose d'évidence pour moi, l'esprit est en nous. Et c'est lui qui inspire toute chose. Alors, si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons aussi respirer cette crainte pour notre Père. Avoir peur de Dieu ? Non. Le craindre ? Oui. Les raisons, je les ai déjà partagées. En premier lieu, simplement parce qu'il est Dieu. Ensuite, parce qu'il nous l'a ordonné. Et enfin, parce que la crainte produit l'amour, le respect, la louange, ce qui change toute notre vie. Notre Seigneur nous appelle à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et pour le connaître, il nous a donné sa parole, son Esprit Saint, et les frères et sœurs avec qui s'édifier. L'amour parfait, effectivement, bannit la crainte. Alors avançons vers lui avec assurance, afin qu'en lui nous trouvions un refuge. Alors entrons dans cette joie de craindre Dieu.
Je vous invite à prendre le 176 et prononce...